Vous écoutez On lit pour vous.
Olivier Bernard remporte le prix Michener. Un texte d'Éric Martel paru le 19 juin 2026 dans la presse. Pour sa série de balados Dérive, le labyrinthe de Lyme, le vulgarisateur scientifique Olivier Bernard et Radio-Canada remportent le prestigieux prix Michener qui récompense l'excellence en journalisme d'intérêt public au Canada. Cette série porte sur les enjeux entourant le diagnostic de maladie de Lyme chronique et les conséquences de traitements non éprouvés. Olivier Bernard a enquêté sur l'influence croissante du diagnostic de cette maladie en mettant en lumière les conséquences dévastatrices vécues par des personnes ayant eu recours à des traitements coûteux et potentiellement nocifs. Cette enquête a abordé un sujet profondément sensible avec rigueur, humanité et courage, a indiqué la présidente de la Fondation des prix Michener, Margot Goodhand. En remettant les faits et la science au cœur du débat public, Radio-Canada a offert aux Canadiens une information essentielle et a contribué à des changements concrets. La série de balados d'Olivier Bernard a eu des retombées considérables, notamment la révision des programmes de formation médicale et des mécanismes de surveillance des médicaments au Québec. Autre conséquence collatérale, la radiation du docteur Amir Kadir pour 6 mois par le Collège des médecins. Extraordinaire rigueur journalistique. Plusieurs patients croyant être atteints d'une forme chronique de la maladie de Lyme ont aussi cessé leur traitement en réaction à la série de balados. Cette enquête s'est distinguée par son extraordinaire rigueur journalistique et son impact tangible, estime la juge en chef du jury pour le prix Michener 2025. En s'attaquant à un sujet complexe et polarisant, l'équipe a démontré une remarquable discipline journalistique et a produit un travail qui a véritablement servi l'intérêt public. Pharmacien de formation, Olivier Bernard a présenté 4 saisons de Dérive qui explorent les croyances alternatives, parfois marginales, menant à des conséquences tragiques. Le prix Michener a été remis jeudi le 18 juin 2026 lors d'une cérémonie à Rideau Hall par la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour. Radio-Canada succède ainsi à la presse qui avait remporté les grands honneurs en 2025 grâce au travail des journalistes Ariane Lacourcière, Caroline Touzin, Gabrielle Duchesne et Katia Gagnon. Leur enquête portait sur les situations d'enfants victimes de plusieurs formes de maltraitance dans des centres de détention et des familles d'accueil. La presse était encore une fois nommée cette année pour sa série de reportages ayant révélé au grand jour les dangers que représentent les camionneurs transportant de lourdes charges sans bénéficier de la formation ni des conditions de travail nécessaires pour assurer la sécurité du public. C'était Olivier Bernard remporte le prix Michener. Un texte d'Éric Martel, paru le 19 juin 2026 dans la presse.
Le service Jeunesse pour le climat, promis par Ottawa, n'existe toujours pas. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir. En novembre 2025, Ottawa débloquait 40 millions de dollars pour créer le Service Jeunesse pour le climat, qui vise, à la manière du service militaire, à offrir de bons emplois et de la formation à des jeunes qui veulent batailler contre le changement climatique. En soutenant la prochaine génération de leaders, on construit un Canada plus fort, plus propre et plus résilient pour l'avenir, expliquait la ministre de l'Environnement, Julie Dabrusin, souriante dans une vidéo léchée publiée sur les réseaux sociaux. Mais, 6 mois plus tard, le programme n'existe toujours pas. Et les militants climatiques qui portent le projet depuis des années s'inquiètent. Ça me préoccupe terriblement, surtout parce que je ne crois pas que ce gouvernement-là se soucie du climat. Si nous ne mettons pas de pression, ils ne créeront pas le programme, dénonce Bushra Asghar, directrice de la campagne de la Brigade Jeunesse pour le climat, lancée en 2020. L'idée de cette brigade provient du livre de Seth Klein, A Good War, Mobilizing Canada for the Climate Emergency, 2020, qui propose d'orchestrer un effort de guerre pour débarrasser le pays des énergies fossiles et le protéger des aléas climatiques. La brigade, telle qu'elle a été imaginée par M. Klein et ses collaborateurs, permettrait aux jeunes participants d'apprendre des métiers liés à la transition, rénovation éco-énergétique, construction d'infrastructures de transport public, aide aux sinistrés de feux de forêt, etc., et de les exercer, bien payés, pendant 2 ans. L'initiative a fait son chemin jusqu'au gouvernement de Justin Trudeau, qui a lancé des consultations à son sujet en 2024. À cette époque, Mme Asghar rencontrait presque chaque semaine des conseillers politiques de haut niveau pour en discuter. Le ministre Stephen Guilbeault comptait parmi ses alliés, dit-elle. Plan de mise en œuvre. Fin 2025, le premier budget de Mark Carney allouait 40 millions à un nouveau service jeunesse pour le climat, piloté par Emploi et développement social Canada, EDSC. La ministre Patty Ashdoux nous a appelés pour nous féliciter, raconte Mme Asghar, qui dirige cette campagne soutenue par presque 300 organisations au Canada. Ottawa demandait alors aux organisateurs de la brigade de lui proposer un plan de mise en œuvre du service jeunesse pour le climat. Ce plan a été transmis en janvier. Tout le monde espérait alors un lancement au printemps 2026, puisque le financement est accordé sur une période de 2 ans qui s'achèvera en avril 2028. Or, nous sommes maintenant en juin et le programme n'existe toujours pas. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'on ne nous fait plus aucune mise à jour, explique Mme Asghar, qui était candidate pour le nouveau Parti démocratique, NPD, aux dernières élections. Bushra Asghar affirme que la dernière mise à jour substantielle fournie par le cabinet de la ministre Ashdoux remonte au 4 février 2026. À ce moment-là, on nous disait viser un lancement d'ici l'été. Depuis, le ministère se contente de dire que le programme est en conception, souligne l'organisatrice. Qu'est-ce qui explique les délais dans la mise en œuvre du service Jeunesse pour le climat? Quand le projet verra-t-il le jour? Interpellé par Le Devoir, le cabinet de Mme Ashdoux répond que son ministère fera le point sur l'initiative en temps opportun, sans plus de détails. Une telle réponse n'a rien pour rassurer les militants climatiques qui pressent le gouvernement fédéral de mettre en œuvre la brigade depuis 2020. C'est très décevant, à ce point-ci, de ne constater aucun progrès, lâche Mme Asghar. L'été s'annonce pénible en matière de chaleur. Le service Jeunesse pour le climat aurait tout ce qu'il faut pour aider les communautés frappées par le changement climatique et soutenir financièrement les jeunes qui sont aux prises avec la récession technique et les pertes d'emplois provoquées par l'IA. C'était le service Jeunesse pour le climat, promis par Ottawa, n'existe toujours pas. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir.
Le changement climatique explique sans équivoque l'intense canicule qui frappe l'Europe. Un texte de Julien Mivieille et Nick Perry de l'agence France-Presse paru le 26 juin 2026 dans Le Devoir. Le changement climatique est responsable sans équivoque de l'intensité de la canicule frappant l'Europe de l'Ouest qui aurait été pratiquement impossible il y a 50 ans, conclut le groupe de scientifiques du World Weather Attribution, WWA, dans une étude. Les températures très élevées durant la journée, mais aussi la nuit, auraient été pratiquement impossibles à cette période de l'année en 1976, année également marquée par une canicule exceptionnelle, concluent ces chercheurs qui étudient la responsabilité du dérèglement climatique d'origine humaine dans des événements météorologiques extrêmes. Une canicule similaire ayant lieu alors aurait été moins chaude de 3,5 degrés centigrades pendant la journée et 2,4 degrés centigrades pendant la nuit, ont-ils calculé. Nous avons conclu qu'au cours de ces 50 dernières années, pendant lesquelles la planète s'est réchauffée de 1,1 degré centigrade, la probabilité d'une canicule comme celle-ci a changé immensément, a souligné Theodore Keeping de l'Imperial College de Londres, l'un des auteurs. Cet épisode n'aurait pas été possible en juin sans changement climatique, a-t-il affirmé encore plus directement lors d'une présentation à la presse. L'Europe de l'Ouest subit depuis plus d'une semaine des températures extrêmes, conséquence de la présence au-dessus de l'Europe de l'Ouest d'une immense masse d'air chaud en provenance d'Afrique et comprimée par de hautes pressions en altitude. Le phénomène climatique n'est pas particulièrement inhabituel, mais les températures le sont, ou en tout cas l'étaient avant le changement climatique d'origine humaine, a commenté Frédéric Otto de l'Imperial College de Londres. Désagréable et dangereuse. Ce changement climatique d'origine humaine découle de l'utilisation massive des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz fossiles, ainsi dans une moindre mesure de la déforestation. Pour leur étude, les scientifiques basés dans plusieurs pays européens ont comparé des données d'observation météo actuelles, mais aussi des prévisions pour les prochains jours, avec les données d'observation de 2003 et de 1976. Ce travail publié très rapidement n'a pas été revu par d'autres chercheurs extérieurs, comme c'est normalement le cas pour les publications scientifiques. Mais la méthodologie utilisée a déjà été validée par la communauté scientifique, soulignent les auteurs. En termes de probabilité, les nuits chaudes ont été rendues environ 100 fois plus probables aujourd'hui que lors de la canicule historique de 2003. Les pics de chaleur pendant la journée sont devenus environ 10 fois plus probables, ont calculé les chercheurs. Ils ont aussi écarté toute responsabilité du phénomène naturel El Niño, qui réchauffe les températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, entraînant des épisodes de sécheresse, inondations et températures records dans le monde. Il n'a joué aucun rôle dans la vague de chaleur. Le stress thermique, qui regroupe températures élevées et niveaux d'humidité, rend aussi cette canicule particulièrement désagréable et dangereuse, remarque Frédéric Otto. Selon l'étude, près de 45% des 854 villes analysées dans 30 pays européens ont déjà battu ou sont sur le point de battre le record historique de stress thermique. Cette conclusion se réfère à un indice de température dit au thermomètre globe mouillé, ou WBGT, qui prend en compte la température, mais aussi l'humidité, l'ensoleillement ou la couverture nuageuse. Il est notamment très utilisé dans le monde sportif. Je ne dirais pas que c'est déprimant d'être climatologue en ce moment, mais c'est frustrant, a commenté auprès de l'AFP Claire Barnes de l'Imperial College qui a participé à l'étude. 150 millions d'Européens à plus de 35 degrés centigrades vendredi le 26 juin 2026, agence France-Presse à Berlin. La vague de chaleur inédite qui frappe l'Europe depuis le début de la semaine et son cortège de pollution s'étend vers l'est du continent entraîne l'annulation d'événements avec des températures à plus de 35 degrés pour 150 millions d'habitants et les hôpitaux sont submergés. Des médecins en Grande-Bretagne et en France ont prévenu que les hôpitaux peinaient à faire face à la chaleur et à l'afflux d'appels d'urgence. Les autorités ont fait état de centaines de morts en Espagne et d'autres dans le reste de l'Europe, notamment plusieurs enfants décédés dans des voitures surchauffées. Selon les calculs de l'AFP, ce sont maintenant plus de 50 millions d'habitants en Allemagne et plus de 30 millions en France métropolitaine qui vont être accablés par une chaleur à plus de 35 degrés centigrades. Au total, les températures maximales devraient dépasser 30 degrés centigrades pour plus de 420 millions d'habitants en Europe, hors Turquie, soit environ 7 sur 10. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, a jugé possible cette vague de chaleur soit un phénomène record, même s'il est encore prématuré de l'affirmer. L'Allemagne est touchée par une chaleur extrême qui va toucher presque toutes les régions du pays jusqu'à la fin de la semaine, indique le service météorologique allemand, DWD. Depuis minuit, une alerte rouge à la chaleur extrême est en vigueur pour la première fois dans une grande partie des Pays-Bas où les autorités déconseillent de prendre la route et où la plupart des écoles ont fermé. Dans les pays déjà affectés par des records de chaleur depuis plusieurs jours à l'instar de la France ou de la Grande-Bretagne, les hôpitaux commencent à être saturés, les cellules de crise sont activées et les décès comptabilisés. Des personnes âgées, des malades chroniques, des enfants, des adolescents, des personnes à la rue. La chaleur tue par noyade, hyperthermie, crise cardiaque. Le système hospitalier britannique, NHS, est à bout de souffle, a constaté la docteure Hilary Williams, vice-présidente du Royal College of Surgeons, qui a fait part de sa stupéfaction devant le niveau de chaleur. En France, le chef des urgences de l'hôpital européen, Georges Pompidou, un des principaux hôpitaux parisiens, a décrit une situation extrêmement grave avec des couloirs pleins de patients plutôt âgés, mais aussi de patients de 50-60 ans, présentant des hyperthermies très fortes. Le ministère français de la Santé s'est dit préoccupé par des décès à domicile. Et les annulations d'événements tombent en cascade. Le semi-marathon de Hambourg, le festival de techno-hardcore DEFCON, la marche des fiertés et le festival de musique Solidays à Paris, ou la reconstitution de la bataille de Waterloo en Belgique. C'était « Le changement climatique explique sans équivoque l'intense canicule qui frappe l'Europe », un texte de Julien Mivieille et Nick Perry de l'agence France Presse paru le 26 juin 2026 dans Le Devoir.
Alex Vien explore les violences de l'été, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 19 juin 2026 dans le magazine Fugue. Certaines personnes se réveillent la nuit pour détester l'été. À leurs yeux, les canicules, la peau moite, les insectes indésirables et les déménagements qui détruisent le dos justifient leur haine. Pourtant, il y a bien plus.
dans son premier recueil, aussi sensible que percutant, « Je veux toujours mourir l'été », Alex Vien aborde de front ce que révèle la saison chaude. Inégalité sociale, pauvreté, injonction à la nudité partielle, troubles alimentaires et détresse psychologique. Fais-tu partie des gens heureux qu'on annonce un été moins chaud que la moyenne? Chris, oui. En même temps, ce n'est jamais un soulagement quand on nous annonce que c'est moins pire que les dernières fois. C'est juste un petit sursaut avant l'inévitable réchauffement climatique dans lequel on est déjà. Même si la moyenne de l'été sera moins chaude, les étés commencent plus tôt et les automnes plus tard. On est en marche vers quelque chose de plus grand et de catastrophique. Après avoir publié deux romans, « Combustion libre »,« Les pénitences », qu'est-ce qui t'a donné envie de nous offrir de la poésie? Je voulais écrire deux romans en bonne et due forme avant de me donner la liberté de faire un projet qui me permettrait de décloisonner mon écriture. J'avais aussi envie d'un processus d'édition plus rapide et que ça sorte dès que possible. Mes études en cinéma m'ont permis de comprendre que je pourrais m'approprier la poésie pour en faire quelque chose qui explore un concept plutôt que de raconter une histoire. Je voulais me libérer de l'idée de construire un univers en respectant une logique de progression. À quel point calques-tu le joual de ton père, sa musicalité et ses manières de dire? Il m'a laissé beaucoup de choses que je dois dénouer en thérapie et une manière de parler. Quand j'ouvre la bouche, les gens m'écoutent. Je rejoins les gens quand je prends la parole parce que je tiens à m'exprimer avec ce que j'ai dans le cœur. Je veux trouver les bons mots sans sacrifier là d'où je viens. J'ai envie de toucher les gens et que mes paroles les remuent. Dans la langue de mon père, il y a un charisme et une intelligence, même s'il n'était pas un homme qui avait eu accès à des études. Ton livre est-il un wake-up call pour les personnes qui ne voient pas les petites et grandes horreurs de l'été? J'espère que c'est un wake-up sur le fait que tout devient plus chaud et plus cher. C'est difficile de trouver les vêtements appropriés pour l'été quand t'es fat et que tu ne rentres pas dans les tailles régulières. C'est difficile de te loger quand tu travailles au salaire minimum, quand les loyers augmentent sans arrêt et quand tu te fais exproprier. Pour moi, en été, tout est dans ta face. Plus rien n'est caché. On voit encore plus la pauvreté, les inégalités, les violences sociales, les corps atypiques. Tu évoques l'injonction de se dénuder. En quoi l'été peut-il exacerber les standards de beauté et les troubles alimentaires? Quand la canicule te coupe l'appétit, si tu souffres le moindrement d'un trouble alimentaire, tu vas te féliciter d'avoir réussi à skipper un repas. C'est aussi une saison durant laquelle les corps sont exposés. À l'adolescence, j'ai passé tellement d'été à porter des jeans, plusieurs couches de camisole et un cardigan pour me couvrir. Dans les dernières années, j'ai pris du poids et j'ai dû trouver un moyen d'être confortable pour sortir dehors. Je devais me confronter au mouvement de se déshabiller l'été et accepter de quoi j'ai l'air. Mon corps est le véhicule avec lequel j'expérimente la vie. Et on s'en calisse qu'il y ait du jiggle. Tu écris que c'est plus facile d'être trans quand t'es mince. Pourquoi? Autour de moi, certaines personnes ont fait des transitions, alors que la mienne tardait à venir. Plusieurs choses auxquelles j'aurais voulu avoir accès m'étaient empêchées en raison de mon poids. Les barrières d'accès aux chirurgies sont discriminatoires. J'ai fait des demandes pour une mastectomie et j'ai eu beaucoup de choses à prouver au niveau de ma santé pour démontrer que j'étais apte à recevoir la chirurgie, alors que si je demandais de me faire brocher l'estomac, je n'aurais aucun mal à l'obtenir. Les préoccupations sur ma santé en lien avec une anesthésie n'existent pas si c'est pour maigrir. Donc, une personne trans, mince, aura moins de mal à accéder aux soins et à faire une transition pour que les gens soient suffisamment convaincus de sa transition. Dans ton recueil, tu identifies aussi l'été comme la saison durant laquelle sont apparues des envies de mort et cette impression qu'il fait plus beau quand tu t'effaces. Comment as-tu décidé d'aborder ces thèmes importants en lien avec l'été? Pour ce livre-là, je voulais parler du corps, de déménagement, de bibitte et de pauvreté. Les parties qui parlaient plus frontalement de la dépression et d'envie suicidaire, à un moment donné, ça s'est imposé. Je parlais de tout ce qui contribue à ce que la santé mentale prend un coup durant l'été, mais il y avait quelque chose à aborder plus frontalement. On s'évertue à croire que la pauvreté est un trauma et que ça affecte la santé mentale. Mais moi, j'ai fait des dépressions majeures l'été en raison de toutes ces choses-là combinées. Le fait de ne pas pouvoir sortir de chez moi, de sentir que je passais à côté de ma vie ou que je n'avais pas les moyens d'accéder à la joie que je voyais tout le monde expérimenter parce que ça prend des sous pour profiter de l'été. C'était des saisons très solitaires. Je me sentais délaissée. Si tu n'as pas de famille ou qu'elle est dysfonctionnelle, et si les gens autour de toi n'ont pas la même définition d'une structure familiale choisie, on peut facilement se sentir laissé en arrière. Il y avait des liens évidents à tracer avec des étés difficiles à traverser. Info, Je veux toujours mourir l'été de Alex Vien, édition Poète de Brousse, 2026. C'était Alex Vien explore les violences de l'été, une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 19 juin 2026 dans le magazine Fugue.